Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce troisième épisode de la deuxième saison de Focus Store, la revue culturelle du magazine Focus Juif, où l'on évoque cette semaine le film Quai d'Orsay, le roman Au revoir là-haut, le nouvel album d'Arcade Fire et la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Un menu gastronomique servi par un casting 4 étoiles, puisqu'au générique il y a Laurent Raphaël, le rédacteur chef du magazine, il y a Philippe Cornet, journaliste musique, et il y a Guy Verstraeten, journaliste à tout faire. Bonjour à
Bonjour,
tous.
Myriam. Bonjour Myriam.
Journaliste à tout faire, c'est ça?
Ouais. Je vous rappelle donc brièvement le principe de cette émission.
Couteau suisse du journalisme.
Mais exactement. Et c'est un compliment, Guy. Le principe donc, c'est toutes les deux semaines, on s'empare des gros morceaux culturels du moment, ceux qui ont fait parler d'eux pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, et on en discute entre spécialistes et profanes, histoire de vous dire qu'en fait, il n'y a pas une seule opinion valide et que l'important au bout du compte, c'est que vous fassiez surtout la vôtre. Si c'est bien compris, alors on peut y aller. C'est parti. Au revoir là-haut, ce sont les derniers mots écrits à sa femme par Jean Blanchard le 4 décembre 1914, un poilu fusillé pour l'exemple et réhabilité 7 ans plus tard. Une illustration de plus de l'horreur de la guerre et pas seulement de celle des tranchées, parce que comme l'écrit le maître, le véritable danger pour le militaire, ce n'est pas l'ennemi, mais la hiérarchie. C'est aussi l'ennemi du travailleur. Enfin, bref. On suit donc 3 personnages dans Au revoir là-haut, 2 gentils et 1 méchant, si on veut caricaturer un peu. Le méchant, c'est le lieutenant Dolné Pradel, un type cruel aux dents qui raye le parquet, et les gentils, ce sont Édouard et Albert, 2 pauvres types dont l'un sortira de la guerre avec la moitié du visage en moins. Bon appétit. Au revoir là-haut raconte la gigantesque et jouissive arnaque que ces 2 derniers vont mettre en place pour se venger des injustices dont ils ont été victimes. Le plaisir du roman tient essentiellement à celui qu'on ressent à vivre cette revanche avec eux. J'ai bien aimé ce livre, même si je pense qu'il ne marquera pas irrémédiablement l'histoire du Goncourt et des lettres françaises. Il marque en tout cas une certaine rupture dans le palmarès du prix, parce que pour une fois, c'est ce qu'on appelle un page-turner populaire, efficace et facile qu'il a emporté. Qu'est-ce que tu en as pensé, Laurent ?
Ben comme toi, c'était un ouvrage très distrayant, on ne s'embête pas une seconde, le rythme...
C'est normal, sur la guerre 14, moi, je
veux dire. On s'éclate.
C'est une période assez fascinante, donc le timing déjà est très bon. Ben l'année prochaine, centenaire de la
Grande Guerre.
Il paraît
qu'il l'avait écrit en 2009.
Oui, mais enfin voilà, il y pensait peut-être ou pas, en tout cas, voilà, le timing est parfait. Je crois que ça a joué aussi dans le Goncourt, puisqu'on commence, on voit que la sauce commence à prendre autour de la Grande Guerre. C'est un auteur de polar à la base, donc il a emmené avec lui certaines recettes du polar, et c'est ce qui fait que c'est un page-turner. Il y a pas mal de twists.
Des cliffhangers en fin de chapitre.
Voilà, il parvient comme ça à glisser à gauche et à droite du suspense dans cette histoire qui est bien brossée, c'est bien écrit, parce qu'on parle de roman populaire, donc tout de suite certains vont se dire oh, c'est un peu bâclé. Non, pas du tout. Il y a un travail sur la langue, de finition, c'est vraiment bien emballé.
Oui, parce qu'en fait, les critiques négatives du bouquin disent qu'il n'y a pas de style, et que c'est pas un bouquin intéressant.
Non, moi je suis pas d'accord, je trouve que stylistiquement c'est vraiment très réussi. D'ailleurs, c'est bien supérieur à Karine Thuil qui était dans le dernier carré du Goncourt et qui maîtrise quand même nettement moins bien la langue qu'ici notre ami le maître. Bon, à sa décharge, ou plutôt à sa charge, je dirais que je suis quand même un petit peu étonné qu'il reçoive le Goncourt, parce qu'autant que c'est un bon livre, c'est un roman plaisant. Enfin, le sujet ne l'est pas, mais l'histoire est bien foutue. Autant, c'est pas un livre qui va révolutionner la littérature. Et donc, on se demande un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un ouvrage comme celui-là, qui est populaire, distrayant, se retrouve en tête du Goncourt, qui est quand même censé, dont on peut attendre, qu'il soutienne un auteur un peu plus ambitieux, qui va un peu travailler la langue davantage, qui va un petit peu repousser les limites de la littérature, ce qui n'est pas du tout le cas ici.
Tu penses à Jean-Philippe Toussaint,
ben, par exemple, dont sa tétralogie se terminait, enfin, c'était l'occasion rêvée de saluer cet auteur qui est quand même au-dessus du lot de pas mal d'écrivains aujourd'hui. Donc c'est un petit peu comme si à Cannes on avait décerné la palme à un long dimanche de fiançailles pour rester dans le même univers. Ce serait quand même un peu surprenant, et je trouve que l'audience dont bénéficie le Goncourt doit, me semble-t-il, aller plutôt vers un auteur un peu plus, voilà, qui pas qu'il le mérite plus, mais en tout cas qui peut être plus supporté dans son travail. Il faut savoir qu'ici, Le Maître, avant même le Goncourt, il avait déjà vendu plus de 50 000 exemplaires. Donc il est déjà sur orbite. Il n'avait pas besoin du Goncourt pour faire parler de lui et bénéficier de cette visibilité.
Et là, son bouquin a été réimprimé à 250 000 exemplaires en plus.
Ben, un concours, c'est une garantie incroyable. De 300 000 quasiment acquises. Et puis alors, il y a les bons concours et les moins bons concours. L'année passée, notre ami Joël Dickers a vendu plus d'un million d'exemplaires et il n'a pas eu le concours. Voilà, alors que le concours avait atteint 500 000, ce qui était déjà pas mal. Donc on est déjà... Enfin voilà, ça montre bien que c'est un boost terrible. Et pour des prix pareils, on peut espérer que ce soit des auteurs... qui ne connaissent pas cette fulgurance-là, qui en bénéficient. Voilà, maintenant sur le livre, c'est un portrait assez soigné. Il y a toujours quelque chose d'assez fascinant sur ces poilus, ces gueules cassées qui reviennent, qui sont encore plus maltraitées.
Ouais, qu'on a traité comme de la merde.
Voilà, je trouve qu'il raconte assez bien cette ambiance où une fois que la guerre est finie, l'armistice est signé, ben qu'est-ce que chacun essaie de tirer la couverture à soi. On pense aux morts et aux héros. Il faut avoir été un héros, donc être sous 6 pieds sous terre. Mais un rescapé avec la gueule complètement amochée, ça ne compte pas, quoi. Je veux dire, c'est quelque part, on va le reléguer parce qu'il est pas beau à voir, parce qu'il vient un peu culpabiliser. Donner mauvaise conscience à ceux qui sont restés à l'arrière.
Il y a des scènes assez poignantes justement par rapport à ça, par rapport à leur ressenti à eux, surtout à Albert qui est un peu le pivot de l'histoire et qui lui est complètement désemparé par la manière dont il est traité, mais sans que ce soit, sans qu'il le théorise vraiment très fort, c'est plutôt du ressenti et ça je trouve que Le Maître l'écrit bien.
Oui, c'est bien réussi.
Je peux poser une question, ouais. Je n'ai pas lu le livre, mais est-ce que c'est pas le propre de toutes les guerres, de renier les gens qui l'ont faite, puis les ont faites.
C'est ce qui arrive
au Vietnam, c'est ce qui arrive en Afghanistan.
Mais surtout, je pense quand
y compris dans les guerres contemporaines, je veux dire.
Là, en l'occurrence, c'est une guerre qu'ils ont gagnée. A priori, donc c'est une guerre que les Français ont gagnée, donc
une double traîtrise.
Oui, normalement les gens qui en reviennent devraient être des héros consacrés. Et en l'occurrence ici, effectivement, il vaut mieux être mort que encore en vie. Et que...
C'est ce que disait Anatole France. J'ai repris cette citation. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Donc pendant et après la guerre, c'est l'économie qui continue, donc c'est le business. Et on le voit bien ici à travers les personnages qui vont monter une arnaque ou à travers le mauvais de l'histoire qui s'en met plein les poches en s'asseyant sur toute dignité humaine alors que c'était un soi-disant héros de guerre. Bon, ben voilà, c'est un petit peu l'égoïsme et l'avarice prédominent quelle que soit la période. Et la guerre, finalement, c'est un business comme un autre, quoi, dont certains profitent symboliquement ou économiquement, quoi.
Oui, notamment dans le héros négatif dont tu as parlé, profite au Ned Pradel profite au tout départ, puisque c'est lui qui envoie au casse-pipe ses propres hommes, histoire de pouvoir se faire mousser et de pouvoir justement profiter après
remotiver
la guerre.
Remotiver les troupes aussi.
Mais pourquoi il les remotive? Pour pouvoir faire une dernière avancée et pouvoir profiter une dernière fois du prestige que ça va lui apporter. Mmh. Et finalement, ça fonctionne. Mais il faut quand même rappeler aussi que même si cette arnaque est l'élément central peut-être du bouquin, ça arrive quand même bien tard dans le livre. Hein, ça arrive après 300 pages, je pense, plus ou moins. Ouais. Donc pendant tout ce temps-là, il faut faire patienter. Parce que si on lit la couverture arrière, on se dit que l'histoire va être ça.
Oui, là, j'ai déjà un gros morceau sur le...
Absolument, alors que ça n'entame qu'après la seconde moitié du bouquin.
Donc, mais la convalescence, ces épisodes-là sont assez intéressants.
Absolument,
par rapport à la morphine, le rapport à la drogue et tout ça, pour ces gueules cassées. C'est vrai qu'on a tous en tête... Ces images plus ou moins voilées de personnages avec un masque de ces poilus qui sont revenus. Alors c'est vrai que ça ressemble à toutes les guerres, mais celle des poilus est quand même une des plus horribles de par la situation, la vie dans les tranchées, le fait qu'il n'y ait plus de mouvement très vite dans la guerre. Et quand on voit les circonstances et les conditions de vie de ces soldats, moi, ça me donne toujours un frisson particulier. Alors, il n'y a pas une guerre qui est plus belle qu'une autre, mais je trouve que être resté pendant 4 ans dans des tranchées, il décrit très bien avec
dans
ses rats qui viennent bouffer et tout. il y a quand même quelque chose d'inhumain, d'insupportable qui dépasse l'entendement et qu'ici on voit très bien et que lui rend, je trouve, très bien avec ce côté un peu tardi. Moi, ça m'a fait penser, bon, il y a du côté Alexandre Dumas dans la manière de raconter un peu la fresque, mais il y a aussi du côté Tardi qui était un spécialiste du genre.
Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ce livre ait reçu un prix aussi important vient du fait que les témoignages sur la Première Guerre, à part des photos qui existent, il y a très très peu d'images filmées, en tout cas beaucoup moins que ce qu'il y aura en 40 et par la suite, et que donc là la littérature va peut-être remplir quelque chose qui n'existe pas au cinéma.
Les Croix de Bois par exemple de Roland Dorgelès, c'est un bouquin sur le même sujet, sur ceux qui sont rentrés, les rescapés de la guerre. Donc il y a une littérature de la Première Guerre mondiale qui existe, qui a eu son succès à une époque, c'est vrai, ça s'est un petit peu émoussé ces dernières années, mais on a quand même des représentations, que ce soit au cinéma ou évidemment à travers la fiction. Mais je trouve, en effet, la littérature est tout à fait apte à transcrire les douleurs et les souffrances de ces soldats.
Je trouve qu'il le fait vraiment très très bien. Tu parlais de l'écriture, moi j'ignore si effectivement il mérite le Goncourt, je ne suis pas assez spécialisé dans la littérature pour pouvoir le dire, mais en tout cas, ce que j'ai...
Vu que tu n'as pas lu les autres en lice.
Déjà, ça c'est...
c'est
une raison d'une logique... imparable, mais pour parler de celui-ci, je trouve vraiment que c'est très très bien écrit. Il y a énormément de subtilités. Je trouve il y a des phrases très très subtiles.
Il y a une oralité un peu désuète de l'époque, je trouve aussi.
Oui, mais sans.
Dans les images, ouais. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que, moi, ça m'a même fait penser dans la peinture sociale qu'il y a derrière. Ça me fait même penser à du Maupassant. Pourtant, si tu dans Bellamy, par exemple, c'est plutôt, mais on retrouve cette dualité sociale entre les riches et les pauvres, avec un côté qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais il arrive à retranscrire ça avec beaucoup de saveur, je trouve.
Oui, mais aussi de finesse et de subtilité, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est pas le trait n'est pas grossi, à la louche, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Moi, j'ai bien aimé ce bouquin, voilà.
Alors moi, je l'ai lu sur tablette électronique, et visiblement, on peut voir ce que les autres lecteurs qui nous ont précédés dans la lecture ont souligné comme citation dans le bouquin. Il y en a une qui a été soulignée plusieurs fois, que je trouve assez sympa. Enfin, je ne sais pas si sympa est vraiment le mot, mais en tout cas, elle peut être récupérée, utilisée à d'autres fins. Il observait ce spectacle lamentable avec la sévérité d'un homme que la médiocrité des autres navre, mais n'atteint pas. Je trouve que...
Oui, il y a plein de
choses. Un havre de paix.
Un havre de paix, Philippe. Spécial dédicace. Bon, on va lui donner une petite cotation. Moi, je lui mettrais un bon 7 sur 10 à ce roman de Pierre Lemaitre.
Moi, je vais lui mettre... Je vais lui mettre 8.
Qu'est-ce que tu vas lui mettre ?
Je vais lui mettre 8, moi.
Tu lui mets 8, carrément.
Oui.
Et Laurent ?
Et moi aussi sur un 7.
Ok, eh bien, Au revoir là-haut est publié chez Albin Michel et comme je vous le disais, il est en réimpression, donc on va encore le trouver très longtemps.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères danois vous attend.
Oh putain, c'est pas vrai, le danois, quelle connerie ce métier. En plus, à chaque fois, il déboule en vélo, il n'y a rien à lui dire, moi.
Vous êtes le seul ici à avoir un cerveau, les nôtres sont déjà sérieusement endommagés.
Il est où le début ?
Mais c'est plus haut.
Vous avez encore fait papier collé, ça a été avalé par votre machine.
Ah non, c'est du traitement de texte.
Oui, et ben vous savez pas vous en servir votre bazar. Allez.
Quai d'Orsay, c'est le nom du dernier film et de la première comédie de Bertrand Tavernier. C'est aussi celui d'une BD qu'il a adaptée quasi case par case. Enfin, je ne l'ai pas lu au complet, mais de ce que j'ai feuilleté, ça ressemblait plus ou moins à ça. Vous me faites des signes, vous me direz ce que vous en avez pensé. BD et film qui, comme son nom l'indique, prend place au ministère français des Affaires étrangères. C'est une évocation romancée des tribulations du scénariste de la BD, Abel Lanzac, qui a bossé avec Dominique de Villepin au moment où la France s'est officiellement opposée à la guerre en Irak. Lanzac était chargé de lui écrire ses discours, ou comme on dit là-bas, de s'occuper de ses langages. Et effectivement, c'est un film basé presque uniquement sur la langue et sur les dialogue. Comme il dure presque 2 heures, ça peut sembler parfois un peu long, mais bon, parce que cette langue-là, c'est vraiment de l'orfèvrerie, c'est du travail d'horloger, c'est beau, c'est précis, ça claque à l'oreille, et c'est souvent très drôle. Moi, j'ai rigolé, je ris pas souvent au cinéma. Et puis, c'est porté par Thierry Lhermitte au sommet de sa forme, c'est une formulation un peu galvaudée, un peu cliché, mais qui, pour le coup, lui convient parfaitement. Et en face de lui, il y a le jeune Raphaël Personnaz, et surtout Nils Arrestrup, d'une saveur assez incomparable, en conseiller un tout petit peu lymphatique. Guy, tu as acheté la BD, je t'ai vu, et tu as vu le film, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Et tu m'as vu l'acheter, en plus.
Oui, c'est vrai. J'étais là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça?
Alors, moi je pense que ce film l'emporte justement sur la longueur. Je trouve, contrairement, je suis assez en désaccord avec à peu près tout ce que tu viens de dire.
Ah d'accord.
sur le fait que c'était assez bien. Moi, j'aime déjà Tavernier, je suis assez fan de ce qu'il a pu faire. Pas dans le registre de la comédie, parce que je pense pas que ce soit sa spécialité.
C'est sa seule.
Voilà. Et donc, tu sens parfois, je trouve, là, à ce niveau-là, pour commencer avec ça, je pense qu'il a un problème de rythme, parfois, Tavernier, dans le montage. C'est parfois un peu scolaire, mal foutu, c'est bancal. Et au début du film, je me suis dit, aïe. Pendant 15-20 minutes, je me suis dit ça n'a pas fonctionné en fait. Mm-hmm. Vraiment, je trouvais ça pas bien foutu, sur le fil et à la limite à chaque fois un petit peu du grotesque.
Oui, dans le jeu,
oui. C'était... Je trouvais rien. Justement, l'ermite, au départ, je pense qu'il rame pour rentrer dans le personnage. Il articule chacune de ses syllabes pour qu'on comprenne bien qu'il a du langage et qu'il est le personnage qu'il doit être. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne pas très très bien. Le héros, qui est Raphaël Persona, c'est ça, hein, mm-hmm. Est assez transparent globalement, je trouve. Mais le film commence à prendre de la chair et de la consistance avec justement Nils Sarrestrup et avec une série de rôles secondaires qui sont vachement bien foutus et qui donnent comme ça... Ah, allez, ça commence à devenir vraiment drôle. Tu sens que Tavernier prend le rythme, etc. Il n'y a pas que du dialogue aussi. C'est un film burlesque, quelque part. Il y a vraiment...
Enfin, il y a peu d'action. Hein. C'est...
Mais, oui, mais il y a du comique. Il y a du comique du comique de claques qui portent et de feuilles qui s'échappent dans l'air. Ouais. Parce que... Mais non, mais c'est ça.
Et qui fonctionne mieux dans la BD que dans le film.
Voilà, ça fonctionne pas des masses dans le film, mais c'est aussi une partie intégrante de la comédie. Mmh. C'est pas une comédie que sur le langage, c'est aussi une comédie sur le langage, mais c'est une comédie qui touche un petit peu à tout.
Côté vaudeville du film.
Voilà, et un petit peu ça. Ouais. Mais ça prend. Bon, ça commence à prendre à partir d'une demi-heure. Ça commence. Voilà, tu te laisses un peu emporter par le truc, je trouve. Et voilà, sur la longueur, moi, ça m'a assez convaincu, même si c'était pas grandiose, mais c'était assez sympa.
Ah, c'est sympa.
Et toi qui as lu la BD, enfin, bon, je crois qu'on l'a tous lu aussi avant. Je trouve que ce côté burlesque qui est évidemment incontournable parce que c'est le propos même du livre, enfin des BD. Je trouve que ça ne fonctionne qu'en partie quand on passe à l'écran. Parce qu'il hésite un peu entre deux. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu gêné. Je trouve que le côté tout ce qui est excessif et qui dans la BD donne tout son sel à l'histoire avec des petites digressions où ça fume au-dessus de la tête des personnages ou le Dominique de Villepin, enfin Alexandre de Vorme, a la tête fermée comme ça, ce qui vient renforcer encore son côté complètement allumé. Ici, ça fonctionne moins bien, même si je trouve que tous les acteurs jouent bien. Je trouve qu'il a tiré le meilleur parti du livre, enfin des BD. Je crois qu'il a fait ce qu'on pouvait faire de mieux, mais je vois pas l'intérêt d'être passé à l'écran alors que les BD sont déjà tellement puissantes, ouais. Tellement originales.
Il y a un exemple assez frappant, je trouve, dans ce que tu viens de dire, c'est par rapport au moment où le personnage principal arrive pour la première fois avec son rendez-vous chez Alexandre de Vorme. Et il y a un espèce de... Je sais pas si c'est un serviteur, comment l'appeler. Je sais pas comment l'appeler.
un groom, un majordome.
Un huissier, dans la BD, qui doit faire à peu près 3 mètres 50 dans la BD, ouais. Et qui ici est juste grand.
C'est ça. Ouais.
Et donc, ce qui dans la BD est un gag visuel devient ici quelque chose d'un peu entre deux, ouais. Et où on se dit il y a pas d'intérêt d'avoir
cette liberté de la BD. Évidemment, tu ne peux pas la retrouver telle quelle, ou alors tu fais du Michel Gondry.
J'allais le dire.
Ouais. Voilà.
Moi, exactement. Je me disais, en voyant le film, d'abord j'ai lu la BD que je connaissais juste par extrait, je la connaissais pas très bien. Puis j'ai lu l'intégralité des deux bouquins, des deux volumes, et effectivement je suis assez d'accord avec toi. Le début du film est assez laborieux. On rentre pas là-dedans et je trouve que Thierry Lhermitte en fait beaucoup pour peut-être pas grand-chose, en tout cas au début ça fonctionne assez moyennement, mais là on est devant effectivement une difficulté de cinéaste, quoi. Alors je sais que moi j'ai beaucoup aimé certains films de Bertrand Tavernier, en même temps je le trouve assez inégal comme cinéaste, comme metteur en scène aussi, même dans comment s'appelle son film avec Tommy Lee Jones,
In the Mist of the Night,
quelque chose comme ça. Je trouvais qu'il dominait pas tellement bien son sujet. Alors ici on arrive dans un domaine complètement différent où effectivement il essaie de transcrire cette BD qui est quand même extraordinairement bien réussie au niveau de la dynamique, de la rythmique justement. Mmh. Et là il a beaucoup de mal, à part un moment où je me souviens où Thierry Lhermitte est à table et il y a un travail sur le son avec les gros plans, voilà, c'est une des rares scènes où il est vraiment essayé de faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est un peu maigre en termes de portes qui claquent et de feuilles qui volent. Et je me disais qu'à un moment, effectivement, tu parles parle de Gondry, bon, qui est aussi énervant un peu dans l'autre sens, l'écume des jours, moi je trouve ça irregardable, mais il aurait peut-être fallu quand même greffer un petit morceau du cerveau de Gondry sur Tavernier, pour avoir un peu cette liberté d'action, de mouvement, qui manque quand même très fort au film.
Ce film aurait pu être réalisé dans les années 60 ou 70.
Il y a du Tati, je trouve, aussi un peu dans le film, il y a un peu de ça.
Dès qu'il y a du burlesque, mais ouais.
En revanche, ils ont de temps en temps, ils ont mis des punchlines supplémentaires par rapport à la BD, pour que ce soit un peu plus grand public.
Je crois que clairement, le film est sauvé aussi par la qualité des interprètes. Finalement, l'ermite s'en sort à la fin.
Il prend le rythme
par rapport à la bande dessinée. C'est vrai que Nils Arestrup est fantastique. Il est génial parce que en plus, par rapport à ses rôles habituels,
c'est incroyable.
Où il est quand même le champion de la crapule. Là, il est un espèce de type doucereux,
tout mielleux.
Il fait passer beaucoup de choses.
Il est pire d'ailleurs que dans la BD, que son personnage de la BD. Personnage de la BD n'est pas aussi
pas aussi marqué.
Aussi malicieux.
Mais cet acteur est incroyable. Autant il peut être inquiétant dans ses ce que tu peux donner et rendre avec tes yeux, c'est incroyable. Ce type est complètement malsain dans tout plein de films. Mais là, il est d'une douceur.
J'ai l'impression qu'on lui a donné un calmant pour éléphant.
Il y a une scène, par contre, je trouve que la scène des stabilos, m'a fait beaucoup rire.
Moi, je trouve ça drôle.
M'a fait beaucoup rire.
Moi, j'ai stabiloté. Vous voyez, mes notes sont stabilotées.
Il y a une diatribe comme ça qui n'en finit pas de durer sur les stabilos. Vraiment...
Moi, je crois que ça a fait repartir deux choses, la bande dessinée
et la vente de stabilos.
Et la vente de stabilos, ça me paraît
bien. Oui, c'est un placement produit énorme, mais enfin, bon, ça reste...
Cela dit, c'est comme dans, et encore plus dans la BD, c'est quand même une belle illustration des coulisses du pouvoir et une espèce d'hommage, malgré l'ironie. Voilà, c'est un travail de fou, c'est assez hallucinant. Même si, pour rester sur cet aspect-là, je trouve que l'exercice de l'État de Pierre Scholler avec Olivier Gourmet
allait beaucoup plus loin
dans le mystère, dans l'épaisseur.
C'est pas vraiment une comédie.
Non, pas du tout, c'était pas une comédie, mais pour montrer les coulisses et les enjeux et tout ce qui se trame derrière, je trouve que voilà, si on va pour ça, pour découvrir quelque
Moi j'ai été voir ce film avec la collaboratrice d'un ancien, enfin l'ancienne collaboratrice d'un ancien grand ministre belge, et elle m'a dit c'est tout à fait ça. C'est exactement comme ça que ça se passe.
Il y a une absurdité dans cette espèce de bureaucratie qui se mord un peu
c'est
la
délirant,
queue.
Hein,
mais
c'est...
ce que je trouve vraiment bien, et ça, je pense que c'est la BD qui veut ça, c'est le côté, ce De Villepin, donc Alexandre de Vorm, un côté un peu visionnaire, mais en même temps complètement fumeux.
Et on sait pas vraiment.
C'est pas vraiment
difficile de le détester complètement, en fait. Hein.
Oui, mais même, voilà, on se dit, il a des visions,
il a
une.
Raison.
La responsabilité, l'efficacité, l'unité.
Tac, tac, tac.
Mais la visite du père est mieux dans le bouquin.
Ah ouais.
Ouais. Elle est pas mal dans le film aussi, mais elle est mieux dans le bouquin. Ouais. En tout cas, je pense aussi que ça va relancer les ventes de Héraclite, non?
Oui. Moi, ça m'a pas donné envie, en tout cas.
Les ayants droit d'Héraclite, et Dieu sait qu'ils sont nombreux pour son temps.
Bon, ben, on va clore le sujet là.
Oui, je voudrais juste dire que assez sympa, c'est probablement pas le meilleur argument.
Non, mais on va arrêter. On va tout couper au montage chaque fois qu'on dit sympa. 7 sur 10 pour moi.
Moi, j'ai mis 6.
Ouais, je vais mettre 6.
Mettre 6,5.
Bon, d'accord. Alors, dans les pages de Focus, notre ami Jean-François Pleugers a écrit au sujet de Quai d'Orsay, qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs. Bertrand Tavernier s'empare de son sujet avec une jubilation aussi manifeste que communicative, en effet, pour signer un film drôle et impertinent, porté encore par une écriture où l'esprit le dispute à l'ironie. C'est toujours bien dit. Voilà. Le disque du jour, c'est Reflector d'Arcade Fire, le super groupe indie montréalais qui met visiblement tout le monde d'accord depuis une dizaine d'années. C'est le virage dansant d'Arcade Fire avec des relents disco, une certaine propension à la sautillance. La faute apparemment à James Murphy de LCD Sound System, appelé à la production de cet album. Alors, moi, je ne vois pas très bien ce que je peux vous dire de plus inspiré au sujet de ce disque, qui ne m'a absolument pas intéressé, comme à peu près tout ce qu'a toujours fait ce groupe dans sa carrière. Pourtant, je l'ai écouté une bonne dizaine de fois, au grand désespoir de mon entourage, mais vraiment sans joie, sans plaisir, uniquement par pure conscience professionnelle. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment chiant.
Mais est-ce que tu as dansé, Myriam ?
Pas du tout. Alors là, vraiment, je sais pas, il faut vraiment avoir envie, très envie de danser, quoi. Il faut avoir un syndrome de Gilles de la Tourette pour danser là-dessus, je trouve. Je trouvais ça fourre-tout, sans parti pris, avec des voix assez insipides. Ça, c'est toujours quelque chose qui me dérange un peu. Pour moi, c'est de la musique pour les gens qui n'aiment pas la musique, mais j'imagine que vous avez évidemment... Oh là, Philippe a l'air concerné par ce que je viens de dire.
Attends,
Philippe...
tu peux dire moi aussi.
Ok, Guy. Ah oui, oh là là, t'as l'air concerné parce que
je suis concerné.
Ah, Laurent, lui, il est un petit peu plus énigmatique, on verra plus tard. Philippe, toi qui es spécialiste de la musique, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce
spécialiste mondial de Arcade Fire? Non, moi je voulais juste dire comment j'ai découvert ce groupe sans être trop
long, oui.
N'est-ce pas? En 2007, j'ai eu l'occasion de les voir à Londres et à New York dans des églises. Ils faisaient des tournées d'églises à 15 jours d'intervalle. J'ai eu l'occasion d'aller aux toilettes à côté de Win Butler.
Et alors
est-ce qu'il sent
par message privé, je peux expliquer certaines choses. Et en fait, j'ai découvert... Je connaissais pas leur premier album. Je les ai découverts au second album. Et j'ai eu la sensation un peu de redécouvrir des choses qui appartenaient à... Comment dire, à un sentiment de jeunesse, c'est-à-dire de redécouvrir une certaine forme de rock collectif mélodramatique, exagéré certes, mais qui fonctionnait extraordinairement bien, y compris en scène. Je me souviens qu'ils avaient commencé d'ailleurs, enfin vous en foutez, mais je vous le dis quand même, par The Guns of Brixton, The Clash au milieu des gens à Londres. Il y avait, je trouvais, une grande puissance dans ce groupe. Donc j'ai suivi les disques, le disque suivant de Suburbs qui est paru il y a 2 ou 3 mm-hmm. ans. Voilà, c'était une petite descente de température pour moi.
Ah bon?
Oui.
Parce qu'il est quand même considéré comme leur chef-d'œuvre, non?
Oui, peut-être.
Est-ce que tu n'avais pas à l'époque, ou alors je me trompe, est-ce que tu n'avais pas dit que c'était le disque de l'année de Suburbs?
De Suburbs.
Dans Focus.
Tu sais, moi, ce que je dis dans Focus.
Oui, alors là.
Non, je me demande.
C'est volatile, évidemment.
Il a peut-être dit ça au mois de janvier.
Oui, c'est ça. Ça devait être le 15 janvier. Non, par contre, j'avais été extraordinairement impressionné par Neon Bible, le second, etc. Bon, bref. Et donc, en recevant ce disque, en l'écoutant non pas 10 fois comme Myriam, je me demande comment tu as fait pour écouter ce disque 10 fois,
ouais,
en l'écoutant plusieurs fois, je suis assez perplexe, en fait. C'est-à-dire que... pour la première fois, je me suis dit, ce groupe use de référence. Alors qu'avant, justement, ce qui me semblait intéressant, c'est que c'était une entité qui était... On ne savait pas très bien à quoi elle était liée. C'était comme... Je ne dirais pas que c'était un groupe sans racines, mais en tout cas, c'était un groupe qui vivait par lui-même, qui avait une autonomie, une façon de faire les choses qui me semblait très particulière, mm-hmm. très singulière. Qui tenait aussi peut-être aux racines, à leurs racines. C'est-à-dire les frères Butler qui viennent d'une famille mormone qui a grandi au Texas, et puis l'autre entité plus montréalaise avec Régine Chassagne, donc Madame Butler, mm-hmm. qui vient en partie d'Haïti, enfin, dont les parents viennent d'Haïti. Donc tout ce mélange donnait une forme de complexité, de mélodie que je trouvais très très efficace. Et ici, j'ai l'impression, disais-je, donc il y a beaucoup de références. On pense évidemment à ton grand ami David Bowie.
Oui, oui, oui. Ça doit être
à Scary
ça.
Monsters et à cette période des années 80. Et à plusieurs morceaux comme ça, on peut cocher des influences. À certains moments, j'ai retrouvé les Specials, j'ai retrouvé un peu la basse funky du début des années 80. Et donc, d'une certaine manière, produire un disque comme ça, pour moi, c'est un peu régressif.
Mm-hmm.
Même si sur le papier, je trouve ça intéressant de confronter deux univers, l'univers un peu choral de Arcade Fire et l'univers plus dense de James Murphy.
Ouais.
Le résultat me paraît assez inégal, en fait. Ce qui me fascinait dans Arcade Fire, c'était, j'appellerais ça la tension mélancolique, c'est-à-dire mm-hmm. une forme d'agressivité qui est... Là, je vais me perdre dans mes explications, mais en tout
cas, c'est très beau,
un doublé entre l'agressivité, une forme d'énergie sonore et une forme de spleen, quoi, qui est quand même mm-hmm. assez aggravée chez eux, en parlant régulièrement de la mort, de l'isolement, etc.
Ça, il y a encore un peu quand même, hein, la mélancolie.
Oui, oui, il y a encore un peu, mais joyeux, justement, moi, mon morceau préféré qui s'appelle Here Comes the Night Time, mm-hmm. qui est sur le premier, joue un peu de ça. Alors, il y a un autre morceau qui s'appelle Afterlife, où il joue mm-hmm. un peu de ça. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une espèce de dilution aussi un peu de leur force. Particulièrement si tu écoutes la deuxième face, ce qu'ils considèrent que c'est un double album, le deuxième disque plutôt, dans le dernier morceau, il y a comme ça une longue plage d'effets un peu synthétisé, bruitesque, je trouve un peu agaçant. Donc moi j'ai l'impression que cet album est trop long, qu'ils auraient dû ramener l'essentiel de leur idée à 45 minutes plutôt qu'à 75.
Guy, toi j'ai vu que tu avais partagé de réflecteurs sur Facebook aujourd'hui.
Absolument.
Donc tu aimes, j'imagine.
J'aime beaucoup. Alors cet album, je trouve, est partagé en deux parties, qui sont globalement celles qu'ils ont partagées eux-mêmes, puisque c'est en deux CD, si j'ai bien compris l'album. Donc moi, la première partie, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime toutes les chansons dessus. Okay. Voilà. Donc notamment la chanson Reflector, qui est à mon avis une des meilleures de ces derniers temps.
Globalement, de ces derniers temps.
De ces derniers mois. D'accord. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Et voilà, je trouve que c'est intéressant parce que Arcade Fire va un petit peu sur des terrains où on ne les avait pas vus aller. Voilà. Mais par contre, la deuxième partie est plus convenue, est un peu plus comme dans les autres albums d'Arcade Fire, c'est-à-dire ça a moins d'intérêt pour moi. Il y a toujours quelques chansons dans leurs albums qui sont extraordinaires. Dans Neon Bible, il y avait ça. Dans The Suburbs, il y avait également ça. Ici, moi, je suis convaincu par la première partie et peut-être un peu moins par la deuxième. Voilà.
Quelque chose à ajouter, Laurent?
Je suis assez d'accord. Moi, il y a à boire et à manger. Je trouve que il y a quelques morceaux comme ça qui me touchent, notamment Reflector, Afterlife aussi, Porno, j'aime bien aussi, dans un trip plus électro. Je suis assez admiratif de leur capacité à induire du mainstream dans leur soupe indie habituelle sans se perdre complètement. Il y a toujours ce côté spleen. Je trouve qu'ils arrivent quand même à manier des opposés. C'est à la fois un peu anarchique et maîtrisé, cérébral et sensoriel. Donc ils arrivent à jouer sur ces deux tableaux. Ça peut paraître fourre-tout, mais l'ensemble tient relativement bien la route. Voilà, ce qui est déjà, pas mal.
Il y a toujours des chouettes fins de chansons chez Arcade Fire aussi. Il y a des fins de morceaux comme
sympa,
ça.
Sympa, des fins de
qui
chansons.
Non, mais. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec cet adjectif. Mais c'est toi qui me l'as mis en tête.
Oui, c'est de ma faute, pardon.
Voilà. Mais il y a toujours comme ça 2-3 minutes de fin. Le morceau se met en place et puis après ça déroule comme ça. Et moi, c'est ça que j'aime assez bien dans ce groupe-là. Et on retrouve ça dans plusieurs tracks de cet album. C'est une des qualités, je trouve, d'Arcade Fire. Mais tout ce que tu as dit, Philippe, je suis assez d'accord. Si tu pouvais le redire, d'ailleurs.
Oui, c'était vraiment bien.
C'était vraiment bien.
Oui, on le repassera. Hein.
Non, sincèrement.
Non, mais vraiment, je trouve. Aussi.
C'était vraiment top.
Bon, 5 sur 10 pour moi, parce que... Oui, parce que c'est mieux que Lady Gaga, quoi.
Moi, je vais mettre 7.
Philippe.
Bon, en tant que fan déçu, je vais mettre 7,5.
Bah moi, 7 aussi. Faut faire comme tout le monde.
Alors, le chef de Nos Pages Musique, Laurent Houbrex, a beaucoup aimé ce disque et parle dans Nos Pages d'une mue aussi captivante qu'étrange pour le groupe canadien. Et puis, je vous rappelle que non, ce n'est pas une blague, même si ça en a l'air, même si ça ressemble à Jean-Jacques Goldman invité au café-théâtre des deux gars à Anderlecht. Arcade Fire sera bien au Hall de Scarbeck le 24 novembre, c'est ça?
Ouais.
C'est évidemment déjà complet.
Il y avait 14 places qui étaient mises en vente.
Oui, c'est ça.
Oui, je peux juste rajouter un truc. C'est assez, à ma connaissance, c'est une des premières fois aussi où un groupe non pas prend un nom d'emprunt pour faire juste un concert ou voilà une blague, mais ici carrément ils ont fait une espèce de campagne mondiale qui est toujours en cours puisque c'est annoncé comme de Reflectors au Hall de Scarbeck en utilisant un autre nom.
Oui.
C'est assez curieux ça.
Ah bah oui, on est sûr que c'est eux.
Mais
oui, a priori.
Le côté un peu transformiste de l'histoire est quand même assez présent. Ils jouent quand même beaucoup. Oui, c'est ça.
Oui,
j'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge de tout le projet. Quoi.
Tu connais un autre groupe dans l'histoire de la musique qui a fait ça à ce point-là?
Et ils invitent le public à venir masquer
ou déguisé ou en tenue de soirée. Je pense que c'est la condition pour rentrer.
Ok. Il y a quelqu'un qui y va, qui a des places ici? Oh, Laurent, certainement, tu trouveras
moyen d'y. J'y travaille.
D'accord, bah, tu nous raconteras.
The only ones interested in people with powers.
Only take the shot if you have to.
We have a couple of hours at most. There's no way that we could possibly...
Don't ever tell me there's no way.
Enfin, on va passer rapidement, très vite, sur le dernier objet culturel de la semaine. Et culturel, il faut le dire vite, puisque la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. diffusée sur ABC n'est pas à proprement parler de la création d'auteurs. C'est du bon gros blockbuster qui tâche et qui pique aux yeux. Et c'était la série la plus attendue de la rentrée US, globalement l'une des mieux notées par la critique et le public en ce début de saison. Et oui, c'est dire le niveau plutôt faible de la fiction télé américaine en ce moment.
Ou de la critique et du public. Et
voilà, c'est ça. Labellisée Marvel, elle parle forcément de super-héros et lorgne ostensiblement du côté de Heroes, mais sans le panache. Et elle expose les aventures d'une bande de Ken et Barbie, bardée de super-pouvoirs enrôlés au sein du SHIELD. C'est l'acronyme de Strategic Hazard Intervention Espionnage et Logistique and Directorate. C'était un peu difficile à dire. Alors en gros, ça sert un peu à tout et à n'importe quoi, sous couvert d'enquêter sur l'étrange, l'inconnu, le non classé et de maintenir l'ordre mondial. Juste ça. Je vais aussi vous dire que le type qui a coécrit la série, qui a réalisé son pilote, est le même que celui qui a déjà commis The Avengers, le troisième film le plus rentable de l'histoire en Amérique du Nord, et qui parlait déjà des super-héros de l'écurie Marvel, qui était déjà, je trouve, très très pénible. Laurent, qu'as-tu pensé de cette série? Tu es content de l'avoir vu, j'imagine.
Ah oui, j'ai beaucoup souffert. C'était vraiment la dope intersidérale. Ouais, pas grand-chose à sauver. Je trouve que c'est, malgré les moyens dont le type doit disposer, ça faisait très années 80, du style agence touriste, enfin voilà, dans ces, où ils débarquent avec leurs gros bras et ils réussissent tout. Enfin, ça retombe complètement à plat. Non, c'est vraiment pas intéressant. Il suffit de voir les cascades. Je crois que c'est souvent un bon indice de la qualité d'une série ou d'une fiction. C'est ce genre de cascade où le type balance vite son chargeur et il y a 300 opposants qui tombent en renversant les pots de fleurs, traversant les vitres. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais ce n'est même pas avec de l'humour derrière. On sent que c'est du premier degré.
Ah,
ou alors elle est mal déguisée. Hein. Franchement, je ne l'ai pas senti. Quoi.
Ouais. Toi, Philippe, tu as carrément regardé un seul épisode.
J'ai carrément regardé le générique. Il avait dit quoi?
C'est Shield, voilà, c'est proche d'un autre mot en quatre lettres que vous aurez. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, enfin, c'est deux choses. C'est effectivement, tout est quand même assez cheap dans cette histoire-là. Et particulièrement, le jeu des acteurs, ce qui est relativement rare, me semble-t-il, dans les séries américaines où les gens se débrouillent quand même pas trop mal. Et là, je trouve que deux acteurs sur trois jouent forcément, franchement, comme des pieds. Quoi.
Tout à fait, oui, oui.
Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire.
Ouais, c'est moi, en fait, déjà.
Toi, tu t'es frappé d'The Avengers spécialement pour
cette émission. Spécialement pour ça. Donc, voilà, tu me dois deux heures de ma vie. Je crois que The Avengers, c'est certainement le pire film que j'ai vu ces deux ou trois dernières années, je pense.
Mais ça a cartonné, hein.
Oui, mais n'empêche.
Et les gens qui aiment les histoires de super-héros qui sont attachés à tout ce qui est Marvel, apparemment...
C'est la logique de
surenchère. The Avenger a réussi un truc, c'est à me faire détester Robert Downey Jr.
Ah non, moi justement, je croyais que c'était le seul qui était un peu son épingle du jeu.
Oh,
est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Est-ce que je peux te couper?
Vas-y.
Je suis vraiment désolé de te couper.
Mais j'ai une information
hyper importante à dire, c'est que je n'y suis pas allé complètement désinformé. C'est-à-dire que mon fils ayant 12 ans, je me suis tapé au cinéma une série de Marvel, donc j'avais déjà un contexte, si tu veux. Bon, je baille un peu au cinéma, etc., mais ça passait. Et alors, quand t'arrives là, t'as vraiment l'impression d'arriver dans le Aldi de Marvel, quoi. Enfin,
c'est exactement ça. C'est aussi pourri, mais avec moins de moyens, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment cheap à mort. Il y a une esthétique... Tu parlais des années 80, moi. Il y a une esthétique un peu Stargate avec Richard Dean Anderson.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, il y a ce côté vraiment, mais c'est cheap à crever. Et alors, ils font de l'humour qui tombe à plat, c'est ridicule. Ils sont tous beaux, canons, etc.
Ouais, mais
et voilà, c'est fini.
C'est
ça
du
fait,
plastique,
ça fait, ça fait 15 ans que plus personne fait ça à la télé. C'est nul. Mais alors, par contre, en revanche, je pense que j'ai vu les trois premiers épisodes. Je me suis dit, c'est certainement ce qui a été fait de plus mauvais à la télé depuis. Enfin, au niveau avec ces ambitions-là, évidemment, il y a plein de séries qui sont très mauvaises et dont on parle pas ici. Mais celles qui arrivent à traverser l'Atlantique en général sont plutôt de qualité. Et ici, vraiment, je me suis dit, c'est très très mauvais. Mais le quatrième épisode est un petit peu mieux réussi que les autres. Ils allègent un petit peu leur espèce de louche d'humour pourri et dégueulasse. Et ça devient... Non, mais c'est vrai. Et alors, quand oui. ça devient une enquête comme une série qu'on pourrait regarder sur RTL à 22h, et ça devient décent.
Mais sans doute, tu as raison.
C'est vachement
ouais, mais même sur non, le mais... sixième que je n'ai pas vu, je me suis arrêté au cinquième, mais sur le sixième, apparemment, ils travaillent davantage un peu les failles des personnages. Mm-hmm. Ça commencera à devenir un peu plus intéressant. Mais bon, peut-être, est-ce qu'il faut attendre le sixième épisode pour commencer à s'intéresser?
Maintenant, blague à part, peut-être qu'ils se sont dit simplement, ok, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, que l'humour tombe à plat à chaque fois, ce qui est quand même un tour de force, de rater toutes les blagues d'un scénario, c'est quand même pas si mal. Et ils se sont dit, bon, on va peut-être centrer ça sur autre chose. Il n'y a pas d'effets spéciaux extraordinaires parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes moyens. Ils ont pris l'agent Coulson, là, qui est le...
Il est bien, lui.
Il est bien, il était mort dans The Avengers, mais bon, il a...
Et tu sais qu'il est marié à Jennifer Grey de Dirty Dancing?
Ok, je pense que je vais pouvoir
dans la vraie vie.
Pas venu pour rien.
Je vais vivre avec cette information.
Et qu'elle-même comment a été fiancée à Johnny Depp. Ah ben voilà, c'était l'info people du jour.
Super. Mais donc, l'agent Coulson, qui était vraiment le personnage dont on se foutait complètement dans The Avengers, c'est le seul qu'ils ont certainement réussi à payer pour la série. Je sais pas, ils se sont dit, bon, voilà. Et donc, tu sens vraiment qu'il y a un côté comme ça. Effectivement, l'Aldi de Marvel, je trouve que c'est une belle formule.
Mais ça marche.
Oui, ça marche. Ah, ça marche. Mais il s'appelle Greg, l'agent Coulson.
Voilà, donc...
Une deuxième information est censée.
Ah bah oui. Attends, si c'est le seul truc à sauver, autant donner son nom.
Mais donc, voilà. Agent of S.H.I.E.L.D. Regardez-le si vous avez... si vous n'avez pas de vie.
Oui, c'est ça. Si vous êtes malade. Si vous n'avez pas de zapette.
Même, ça m'a empiré si t'es malade. Tu regardes
oui,
ça.
C'est vrai.
Mais non, mais peut-être que ça va s'améliorer. Laissons-lui quand même une...
Mais Guy, une est-ce que chance. Tu as un petit peu suivi la rentrée des séries américaines? C'est une catastrophe cette année, non?
Bah, je pense que ce n'est pas la rentrée qui va rester dans les annales, ça c'est certain.
Ah oui, oui.
Mais bon, après... Voilà, maintenant je pense que c'est difficile. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites en matière de série. Et c'est difficile de retrouver du souffle et tout. Mais il y a peut-être des séries qui vont prendre un peu de mm-hmm. d'ampleur et d'impact sur la durée.
Éteignez la télé et prenez un bon livre.
Faites du sport, les enfants.
Bon
mangez, bougez.
Non, mais le problème des séries, c'est que maintenant, chaque chaîne. Ça prend du temps. Quand toutes les chaînes ont compris à quel point c'était vraiment important d'avoir une série qui fonctionne, etc., puis ça met du temps à prendre, ça met du temps à écrire un pilote, ça met du temps à financer, etc. Donc, la machine, c'est des machines lourdes et qui arrivent parfois un peu hors timing quelque part. Et donc, peut-être que là-dedans, dans cette prolifération de séries, on va retrouver l'une ou l'autre perle qui sur les années vont marquer, mais là, pour le moment, effectivement, sur cette rentrée-ci, c'est pas top, quoi.
Ouais, alors, moi, je lui mets 1 sur 10 à cette série.
Moi, je vais lui mettre 3.
Ah, quand même.
Mais j'ai toujours du respect pour la création, malgré tout. C'est quand même des gens qui crient, des gens qui jouent. Voilà. 3. C'est pas du respect
par
non plus.
Par amour
de...
des gens.
Voilà.
Voilà.
Je vais suivre Guy, 3.
Ouais, moi, je coupe la poire en 2, 2.
C'est gentil à toi, merci. Voilà, comme toujours, on clôture cette émission avec le tour de notre dernier coup de cœur. Et comme d'hab, je commence avec une série, cette fois, qui sort chez nous le 20 novembre en DVD après avoir été diffusée sur Arte. C'est Top of the Lake. 6 épisodes atmosphériques entre lac et forêt où une jeune policière jouée par Elizabeth Moss, qu'on avait d'ailleurs découvert dans Mad Men. J'en profite pour dire que la 6e saison de Mad Men est vraiment extraordinaire.
Et tu sais qu'Elizabeth Moss est sortie avec... Non, je sais pas.
Non, mais ça, j'ignore tout de son pedigree amoureux. Bref, elle était une copie ambitieuse en Mad Men et ici, elle enquête sur la disparition d'une fillette enceinte. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. C'est réalisé par la cinéaste locale Jane Campion et on y retrouve d'ailleurs son actrice fétiche Holly Hunter en gourou aux longs cheveux blancs. C'est moins la résolution de l'intrigue policière qui compte ici que le voyage pour y parvenir dans des très beaux paysages et des foyers de gueules patibulaires. Un freak show dans un décor onirique, je pense à Twin Peaks, à The Killing, c'est lent, c'est contemplatif, c'est étrange et c'est très beau, malgré ton visage étrange. Tu n'as pas l'air d'être d'accord avec moi, Laurent. Moi, je trouve que c'est ta voix.
Non, je trouve que c'était vraiment pas mal. J'ai plus de réserves que l'enthousiasme que j'entends partout sur la série. Je trouve notamment que le rôle de gourou d'Holly Hunter est... Je trouve qu'il apporte pas grand chose à l'histoire.
Non, mais à l'étrangeté de l'atmosphère.
Mais justement, non, je trouve que ça sonne un peu faux. Tu évoquais Lynch et compagnie. Je trouve qu'il n'y a pas cette épaisseur dans le mystère. C'est un peu, oui, elle a des paroles un peu nébuleuses. Elle semble percevoir des choses, mais je trouve que c'est pas très crédible, elle est tellement grimée, comme ça, ça sonne un peu faux. Voilà, et juste encore un petit détail, je trouve que l'actrice principale, c'est un peu dommage de lui avoir en plus rajouté un propre historique personnel passé.
Oui, ça, c'est
c'était
vrai.
La petite touche en trop. Je trouve que l'historique, l'histoire se suffit elle-même. Fallait pas en rajouter pour faire des liens avec son propre passé. Voilà, c'est ma petite réserve, sinon c'est bien foutu, je trouve.
Ah, mais oui, mais surtout quand on sort de Agents of S.H.I.E.L.D., on ne peut qu'adhérer. Bon, et toi, ton coup de cœur, Laurent, c'est quoi cette semaine?
Alors, je vais venir avec un film dont vous avez tous entendu parler. C'est le Prisoners de Denis Villeneuve.
Oh, mais non! Oh, mais non, on va vraiment se battre un jour.
Ah oui, tu n'as pas aimé?
Oh là, j'ai trouvé ça d'une grotesque absolue.
Moi, j'entends des gens qui en font des critiques dithyrambiques et des gens qui en font des critiques
hallucinantes
d'horreur.
Carrément rigolé.
Ah, oui,
donc,
oui. Mais il paraît que si on n'a pas d'enfant, on ne peut pas comprendre.
Écoute, ah non, moi, je crois que non. Franchement, indépendamment de ça, je trouve qu'il y a... Il y a une atmosphère, c'est bien filmé avec ce côté néo-70s, comme ça, ces couleurs hivernales. Et puis le gars a quand même fait Incendie, qui est un film fabuleux.
Détestable.
Que j'ai pas aimé.
Qui est terrible.
Qui est affreux.
Et s'il arrive à se fondre dans cet univers américain de banlieue, avec ce drame qui arrive, qui se produit pour deux familles, même si c'est une qui est plus au centre du jeu. Et bon, il y a une filiation avec Fincher, on pense à Zodiac en particulier. Et je trouve que le mec réussit vraiment un thriller prenant noir, un peu borderline comme ça, avec peu d'éléments, avec l'opiniâtreté de Jake Gyllenhaal d'un côté, avec l'autre, le père de famille qui est un croyant, qui pensait avoir prévu le pire, qui a une cave remplie de vivres au cas où, et puis en fait tout lui échappe parce que ça le touche en direct.
En fait, c'est la disparition de deux
petites filles dans une banlieue, et très vite l'enquête patine un peu. Il y a un coupable présumé qu'on relâche parce qu'il n'y a pas de preuves. Du coup, le père va péter un câble et vouloir faire justice.
Oui, j'allais te le dire.
Le type
Paul Dano,
le kidnappeur supposé, je l'ai rencontré dans la rue à New York. Paul Dano, hein, ça. Mm-hmm. Paul Dano. Et franchement, il est
effrayant.
Bien en civil. Ouais. Je dis, Paul, c'était bien ton film, etc.
Et là, il est tapé. Hein.
Ouais, et deux jours avant, j'avais rencontré François Damien. Je me demande vraiment ce qui m'attend.
Eh bien, quelle vie, Philippe, c'est dingue. Ouais, ça. Ouais. Arcade Fire à New York à Londres et Paul Dano à New York.
Écoute, c'est plus de deux heures et demie. Je trouve qu'on voit vraiment pas le temps passer. C'est vraiment prenant. Et voilà, un thriller noir très.
Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de pornographie de la torture qui ne racontait rien d'autre qu'elle-même, quoi. Enfin, j'ai pas vu toutes les résonances parce qu'on a parlé de critiques de l'Amérique d'Obama, etc. J'ai lu des tas de trucs dessus. Alors, j'ai juste vu un téléfilm du dimanche soir un peu amélioré, quoi. Mais bon. Mais c'est vrai que la critique est vraiment dithyrambique. Donc, c'est probablement moi qui ai tort. Mais c'est une voix discordante.
Ta vision. Mais le fait d'avoir des enfants, je pense, n'y change rien. On peut apprécier sans avoir de gosses, à mon avis.
Philippe, ton coup de cœur.
Ah oui, moi, en fait, c'est quelque chose d'assez classique. C'est quelque chose d'assez classique.
C'est Mozart, le dernier album de Mozart.
Alors, un remix de Mozart par James Murphy. Non, voilà, j'ai reçu le box de Paul Simon. Paul Simon, les 14 albums studio et live de Paul Simon, donc sans Art Garfunkel. Et en réécoutant ça, effectivement, je me suis dit que...
C'était mieux avant.
Oh oui, la vie était tellement plus agréable, Myriam, tu t'en souviens.
Mais
donc voilà, qu'il y avait une qualité au niveau non seulement de la composition, de l'interprétation, de la production, du son, qui mérite vraiment la redécouverte, quoi. C'est-à-dire que Paul Simon, non seulement a quand même fait une certaine carrière dans le folk, comme vous devez le savoir, mais aussi était quand même largement précurseur en matière de musique du monde, puisque c'était le premier à travailler avec des Péruviens, des Sud-Africains, pas les Brésiliens, mais voilà. Et c'est vraiment une exploration. Pour moi, c'est vraiment du niveau de Lennon McCartney ou de Bowie dans un autre style, mais c'est assez extraordinaire, en fait. Voilà. Et surtout, on sent, enfin, je veux dire, on a beaucoup glosé sur le néo-folk, le trash folk et toutes les tendances du folk des 10 ou 15 dernières années, et là, on a quand même affaire à un maître, quoi.
Ça donne envie. Ça donne envie de s'arrêter un peu, de sortir du ronron de la branchitude et de la hype et de redécouvrir Paul Simon. Merci,
Philippe.
Je
pense que ça pourra te faire beaucoup de bien,
mais je crois aussi. Vraiment, et au premier degré, je le dis. Bon, Guy, arrête de rire des blagues de Philippe.
Moi, je vais parler de Métronomie, qui est aussi de la musique, forcément. Parce qu'il vient de sortir leur dernier single, je l'ai publié hier parce que j'ai la chance d'être ami avec l'un des membres de Metronomy.
Mais non.
Mais oui.
Dans la vraie vie ?
Dans la vraie vie.
Tu sais qu'on a tous, des
Attends, t'as rencontré Paul Dano, François Damien.
Moi, je connais Laurence Bibeau
dans la galerie. Hein.
Tu as rencontré Popek à son époque, je me rappelle très bien. Tu n'as connu que des grands. Moi, j'ai aussi droit à avoir mon petit quart d'heure de célébrité.
Mais quoi, ami ou copiné ?
Non, parce que je l'avais rencontré une interview et depuis lors, voilà, voilà.
Vous êtes resté en contact.
Voilà, ami, sera pas le parrain de mes enfants si j'en ai un jour, je pense, et inversement. Un peu importe, bref, c'est pas très important, oui, c'était juste. C'était,
ça, vous avez l'air de la synthèse quand même.
Ouais.
Bref.
Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Donc, Metronomy sort un nouvel album, je pense, au printemps, qui s'appellera Love Letters. Donc, il s'annonce amoureux et romantique. Et le premier extrait donc, s'appelle I'm Aquarius. Aquarius. Donc je bois de l'Aquarius, je pense. Et donc c'est du Metronomy un peu mode English Rivera, donc un peu
okay, excellent.
Un peu très bien, un peu solaire comme ça, très chouette avec un beau refrain et c'est très sympa et
c'est très sympa, oui.
J'ai envie de le répéter. C'est vraiment sympa. Non, blague à part, Metronomy, je pense c'est quand même un des groupes les plus intéressants du moment et ça devrait. Moi, je suis très impatient à l'idée de retrouver leur prochain album, donc voilà, écoutez-le aussi. C'est sur SoundCloud en fait, y a même pas de clip sur YouTube et tout, c'est vraiment la base de la base, mais c'est vraiment bien, voilà.
Merci, c'est fini, c'est tout pour cette fois. Comme toujours, on vous attend sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/focusstore, et on vous donne rendez-vous évidemment sur papier toutes les semaines dans Focus Vif, vendu avec le Vif l'Express. Merci d'avoir passé cette petite heure, ces 52 minutes avec nous. On sera heureux de vous retrouver dans 2 semaines. On dit au revoir aux auditeurs.
Au revoir aux auditeurs. Au revoir.
Salut à tous.
À bientôt. Salut.